Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre méditation nous conduira sur les chemins de l'espace de liberté intérieure, où Dieu nous appelle. Nous y entrons avec le psaume 145. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque, en vérité. Nous lisons dans le livre d'Isaïe, au chapitre 49, les versets 8 à 15. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, « Sortez !» Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie. Terre, exulte. Montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Gloire à toi, Seigneur. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 3, Fuir, 9e partie. Parfois, nous demandons à quelqu'un à qui nous voulons faire remarquer son langage négligent ou offensant, « Mais est-ce que tu t'entends parler ?» C'est une bonne question à nous poser en toutes circonstances. Le langage n'est pas mauvais, mais la manière dont nous l'utilisons signifie que beaucoup se perd dès que nous nous mettons à parler. Voici l'une des histoires du désert les plus éloquentes à ce sujet. On disait au sujet d'Abba Apollon qu'il avait un disciple du nom d'Isaac, parfaitement entraîné à toutes sortes de bonnes actions. Il avait reçu le don d'une prière ininterrompue pendant la célébration de l'Eucharistie. Lorsqu'il venait à l'église, il ne laissait personne se joindre à lui. Il avait coutume de dire que chaque chose est bonne en son temps et il y a un moment juste pour chaque chose. Dès que la liturgie était terminée, il s'enfuyait comme s'il y avait le feu et se hâtait de regagner sa cellule. À la fin de l'Eucharistie, c'est une pratique courante parmi les frères de recevoir un morceau de pain et un verre de vin. Mais cet homme n'en voulait pas. Ce n'est pas qu'il voulait tourner le dos à la gape des frères, mais qu'il voulait préserver la prière ininterrompue qu'il avait vécu durant la célébration du sacrement. Il arriva qu'il tomba malade. Les frères en entendirent parler et vinrent lui rendre visite. Et alors qu'ils étaient assis auprès de lui, ils lui demandèrent « Abba, pourquoi fuis-tu les frères à la fin de la liturgie ?» Il leur dit « Je ne fuis pas les frères, mais les pièges malfaisants du démon. Si vous vous promenez au grand air avec une lampe allumée, le vent éteindra votre lampe. Nous sommes semblables à une lampe. Si nous nous promenons en dehors de notre cellule, lorsque nous sommes illuminés par le Saint-Esprit, notre esprit s'éteint. Il vaut la peine de nous souvenir de cela quand nous pensons à combien nous apprécions les signes qui rendent visible la communauté et qui suivent la plupart de nos célébrations cultuelles. L'agape, c'est une très bonne chose, et Isaac ne remet pas en question la valeur des gâteaux et du café. Mais il se passe parfois quelque chose de très particulier, une chose qui nous rend réticents à briser le silence, qui nous fait craindre de laisser la lampe s'éteindre. Même dans un environnement tout à fait séculier, nous pouvons parfois reconnaître de tels moments. Dans le film Shakespeare in Love, la fin de la toute première représentation de Roméo et Juliette est accueillie d'abord par un silence stupéfait, et on peut voir les acteurs se demander brièvement si la pièce est un échec complet. Mais ce qui s'est passé, c'est que le public a été emporté hors du monde de la facilité, vers un tout autre niveau de langage et d'expérience. Et il est juste que les applaudissements mettent du temps à venir, même s'ils sont assourdissants quand ils finissent par arriver. Ce moment de silence à la fin d'une pièce de théâtre ou d'un concert qui nous a profondément émus, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Et comme Isaac, nous avons peut-être bien l'envie de courir dans notre cellule plutôt que de rompre le moment par la discussion. Le temps de parler viendra sans doute, mais il faudra du temps pour arriver au point où les mots deviennent possibles. Même Isaac trouve des mots, et des mots mémorables, lorsqu'il est questionné. Préserver la lumière, prendre le temps qu'il faut pour que la parole puisse émerger, fuir la réaction facile, la phrase évidente, les formules et les gestes habituels et éculés. Tout cela implique un certain besoin de stabilité, parce qu'il faut un environnement où l'on puisse vraiment prendre le temps qu'il nous faut. Fuir, ce n'est pas un perpétuel déménagement. Comme nous l'avons dit il y a quelques jours, il y a un monde de différence entre fuir la responsabilité et fuir au nom de la vérité ou de l'honnêteté, c'est-à-dire fuir au nom de la responsabilité. La tradition du désert a beaucoup à dire sur la tentation qui consiste à penser que partir ailleurs va nous rendre la vie plus facile. Et nous y reviendrons dans le dernier chapitre. La vérité, c'est que fuir et rester sont deux faces de la même médaille dans la littérature du désert. Dans les deux cas, il s'agit de trouver un moyen d'éviter de suivre compulsivement notre propre programme individuel et non personnel. Ce que l'on fuit, ce sont nos propres obsessions. On s'évade vers la liberté. Si bien qu'on n'essaie pas d'échapper à soi-même. Et nous verrons au prochain chapitre ce que les maîtres du désert ont à dire à ce sujet. Mais on pourrait presque dire d'échapper vers soi-même, vers cette identité que nous ne sommes pas autorisés à reconnaître, à nourrir, à faire grandir, tant que nous sommes piégés par les habitudes de la comparaison pleine d'anxiété, de la recherche de statut et du bavardage. Comme c'est si souvent le cas dans nos réflexions, il faut concevoir cela comme la découverte d'un espace, comme une mise au large qui nous donne la place de respirer. Toute cette affaire d'une vie et d'une mort qui dépendent de notre prochain a à voir avec le fait de donner à l'autre l'espace nécessaire pour trouver sa propre relation avec Dieu. Accepter l'existence de vocations différentes au nom d'une réelle communauté de personnes, cela a à voir avec le fait de m'assurer que le développement de ma propre vocation n'est pas en train de pousser dehors celle d'un autre. Et l'appel à fuir, que ce soit les privilèges, la sécurité, la parole ou les évêques, c'est un appel à mettre de la distance entre soi-même et les pressions si peu personnelles qui entravent la croissance. Ces pressions que la tradition chrétienne grecque appelle pathé, passion. Un terme qui n'est pas idéal en français pour désigner ce à quoi il fait référence, puisque nous avons tendance à partir du présupposé que cela veut dire les émotions en général. La vie dont parlent les moines et les moniales du désert, c'est une vie dans laquelle il y a de l'espace, mais aussi un engagement à trouver cet espace d'opportunité divine dans les limites d'un territoire très restreint. Le désert peut nous sembler immense sur les photos, mais le désert tel que nous en faisons l'expérience, à la taille de notre propre cœur, de notre propre esprit et de notre propre imagination. Et ces espaces-là ne sont pas infinis. Ils peuvent même être très étroits. Et cet engagement à rester dans l'espace de la compagnie de ces personnes-là, de ces disciplines quotidiennes-là, de cet environnement-là qui est immuable aussi bien d'un point de vue matériel que d'un point de vue mental, cet engagement coûte. Cela prend du temps, là encore, de découvrir que l'horizon apparemment généreux d'un monde dans lequel mes désirs superficiels ont le champ libre, c'est en fait une prison plus étroite que l'espace restreint choisi par les moines et les modales du désert. Quand on a appris, avec plus ou moins de réussite, à fuir certains des paysages illusoires dans lesquels la vie nous paraît plus facile, on doit encore apprendre comment habiter le paysage de vérité comme un hôte qui n'y est plus seulement de passage. Nous prions. Seigneur, toi qui m'appelles à naître, apprends-moi à me mettre en marche, à quitter les rives de l'immuable retour sur soi et à me tenir dans l'espace ouvert entre ton nom et le mien, ô Père, à casser la ronde des hésitations stériles et à rythmer mon pas au tien pour que mon humus se fasse fertile, ô Christ, à défaire le cocon des certitudes exiguës et à m'exposer résolument au souffle de ton large, ô Saint-Esprit. Amen.